Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à Peut contenir des infos. C'est avec un plaisir renouvelé d'une fois à l'autre qu'on vous retrouve et que je retrouve personnellement mon collègue François Côté.
Tout le plaisir est pour moi.
Ben, c'est un plaisir.
Non, tout le plaisir est pour toi.
C'est ça, tout le plaisir est pour moi, exactement. Ça, c'est quand, par exemple, il y a quelqu'un qui est là puis qui traîne un peu. Tu sais, t'attends une personne, tout ça, puis il dit, je m'en viens. Non, c'est pas grave, prends mon temps.
Ouais, c'est ça.
C'est un petit signal. Hey, on a une grosse émission aujourd'hui.
Oui.
Encore très chargée.
Oui, on va parler, entre autres, Simon, d'économie.
D'économie, OK.
Oui, d'économie. 2023, là, nous réserve quoi, là? On parle de récession, tout ça. Qu'est-ce que ça a l'air un peu le portrait en date d'aujourd'hui?
OK, puis c'est pas nous autres qui sortons la boule de cristal.
Non,
là.
C'est David-Alexandre Brassard de CPA Canada.
Pas n'importe qui, en plus l'économiste.
Économiste en chef.
En chef.
Oui, c'est
wow.
Ça.
Wow!
Oui.
OK. On va avoir une chronique musique aussi. Faire des découvertes.
Oui, ça va être intéressant. Moi, j'aime toujours découvrir de nouveaux artistes.
OK, puis celui qui va venir nous parler de ça, c'est
Marc Lalonde.
Lalonde des ondes, comme
oui,
il s'appelle.
Oui, Lalonde des ondes, animateur de CanRock, chroniqueur musique depuis 25 ans.
Oui, puis il fait des chroniques, il signe des chroniques dans francopresse.ca.
Dans francopresse, oui.
Alors, il va nous faire découvrir de la musique pour, j'aime ça ce titre-là,
oui.
Pour embrasser l'hiver.
Oui, parce que... Honnêtement, là, moi, embrasser l'hiver, là,
c'est pas une saison que personnellement,
non,
peut-être que vous
je
autres
voudrais embrasser,
avez,
non.
Peut-être que vous autres qui avez une motoneige qui nous écoutez, qui faites du ski, des trucs du genre, peut-être que vous autres vous embrassez l'hiver. Ben, j'espère pas la neige à proprement parler.
T'es
en skidou, t'es en motoneige, t'embrasses l'hiver. C'est pas terrible, là.
Non. Mais quand j'étais jeune, je dois dire, je faisais beaucoup de ski alpin. Alors, j'aimais l'hiver.
Parce qu'on devient des vieux grincheux, je pense.
Ben, je pense que oui.
Un petit peu
je pense que oui. On t'avait de sortir nos chaises berçantes. Là.
Moi, je suis bien parti depuis, je dirais pas ma naissance, mais quand même quelques années que je suis habitué à chialer. Puis après...
Quoi?
Ça dépend de quelle angle tu vois la vie.
Ben, c'est ça.
Ouais.
On a le droit de chialer. C'est un droit universel.
Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, quand je chiale, faut au moins que ça soit constructif. J'essaye de chialer de façon constructive. OK, on arrête ça là. Arrête ça là.
Oui.
De quoi tu veux nous parler, toi, aujourd'hui, l'ami?
Ben, je sais que toi, t'as déjà loué un Airbnb.
Ça m'est arrivé à quelques occasions.
Moi, je ne l'ai pas fait encore.
Je ne déteste pas personnellement.
Oui, c'est ça. Avec les enfants, c'est plus...
Ben, c'est ça. Tu sais, quand t'as deux boys,
ouais.
Tu t'en vas louer des chambres d'hôtel, t'as le choix. Soit tu loues une chambre d'hôtel pour eux autres puis nous autres.
C'est ça.
Soit t'endures que tout le monde est dans la même chambre... Il va regarder un film ou quoi que ce soit du genre, veut te coucher plus tard, et le plus jeune est déjà en dedans. Tu sais, c'est un peu compliqué.
C'est ça, ouais.
Airbnb a ce site particulier. Je sais que c'est pas la panacée, je sais pas la grande, tu sais, il y en a qui voient ça d'un très mauvais œil, mais il y a au moins l'opportunité que si tu loues une place
c'est
que deux.
C'est très pratique.
Ben, quand il y a deux chambres, c'est pas.
C'est vraiment pratique.
Ouais, y a ça.
La popularité d'Airbnb et d'autres services de location, c'est drôle parce que ça a coïncidé avec l'augmentation de la production de petites caméras cachées.
Ben non.
Je te dis.
Ah ouais, hein?
Oui. Ce qui rend de plus en plus probable que votre petit séjour ait pu être vu peut-être par la personne qui vous a loué la place.
Tu me niaises.
Ben là, okay, on va pas dire que c'est tous les Airbnb, mais je veux dire, il y en a que effectivement ils ont mis... Ben, puis c'est pas une mauvaise pratique dans le sens où tu veux savoir, tu sais, si jamais il y a un trou dans le mur là.
Ouais, non, je comprends.
Tu sais, tu veux savoir un peu, tu veux te protéger un petit peu.
Ouais.
Mais ça reste que tu sais, c'est une question de vie privée là et de respect là, fait que
ben, j'ose espérer au moins que c'est pas dans les lieux entre guillemets privés.
Ben ouais, c'est ça, j'espère que c'est pas dans les chambres.
Et mes aïeux ou encore dans les salles de bain, des affaires la même parce que wow.
Mais Simon,
ouais.
Toi qui es techno.
Ouais.
OK, t'es geek. Y a une façon de trouver des caméras cachées dans une pièce.
Voyez-vous.
Avec ton téléphone.
Ouais, ça, j'ai entendu parler
avec
de ça.
Avec ton téléphone cellulaire. Mm-hmm. Parce que les caméras sur les téléphones cellulaires sont capables de détecter l'infrarouge.
C'est ça.
Ce que nous, on ne peut pas. Nos yeux ne peuvent pas détecter l'infrarouge. Alors, certains téléphones, c'est la caméra arrière. Certains téléphones, c'est la caméra avant. Ce que je vous conseille de faire, c'est rendre la pièce le plus noire possible et puis scanner avec vos deux caméras. Puis vous allez voir, si vous voyez une petite lumière, là.
Ah, rouge, ouais.
Puis même, vous pouvez le tester avec votre télécommande de télévision.
Ben oui.
Oui, vous pouvez, en faisant on-off là, tout le temps, là,
oui.
Vous allez voir un petit faisceau lumineux, soit bleu, soit rouge, soit jaune. Oui.
L'autre façon aussi que...
Oui, c'est les réseaux.
C'est ce que j'allais dire.
Oui.
Tu savais où je m'en allais.
Oui, je savais où ce que tu t'en allais parce que t'es un gars de réseau.
Oui.
Alors, c'est pour ça que je voulais te l'amener aussi. Mais c'est ça, tu regardes qu'est-ce qui est branché sur ton réseau.
Ouais.
Et là, tu vas t'apercevoir, hey, c'est quoi cette affaire-là?
Tu loues un chalet.
Pas ça, là.
Tu loues un chalet à quelque part là où il y a accès à Internet, on va dire. Puis là, tu vois comme Samsung quelque chose, tu sais que c'est le téléviseur. Puis là, tu vois H24-488. C'est ça, cette affaire-là.
Oui.
Tu peux faire peut-être des fois même une petite recherche sur Internet pour t'apercevoir que H24-428, je vois pas trop, c'est un modèle de caméra.
C'est ça, ouais. Exactement. Oui.
Intéressant.
Mais, tu sais, comme je vous dis, là, je veux dire, partez pas en peur, là, c'est pas c'est pas tous les Airbnb qui
sont
ça.
Non, mais c'est intéressant.
Mais il y a quand même eu, c'est drôle, parce qu'il y a quand même eu une augmentation de la production des caméras cachées.
Un lien de cause à effet.
Ben, c'est ça.
On reste dans la technologie, mais je veux vous surprendre un petit peu. Mais peut-être que vous en avez déjà vu, c'est les robots serveurs qui arrivent dans les restaurants.
J'en ai pas encore vu.
Non, j'en ai pas encore
croisé. Je me suis pas encore fait servir par un...
C'est un phénomène grandissant quand même, là.
Oui.
Moi, j'arrête pas d'une semaine à l'autre de lire une nouvelle à quelque part qui parle justement de robots, qui montrent des robots qui arrivent dans les restaurants. Ils sont de plus en plus populaires en raison de... pénurie de la main-d'œuvre,
autre chose.
C'est ça. Puis l'augmentation aussi effrénée des coûts d'exploitation. Les restaurateurs essaient de couper le plus possible dans les frais. Alors ils disent, ben, tu sais, peut-être de rentrer un robot qui pourrait m'assurer un service amélioré et tout ça, ça pourrait être. Écoute, il y en a de plus en plus de marques et de modèles. Je pense à Riemann Robotics, à Kenan Robotics et compagnie. Écoute, nomme-les, il y en a, il y en a, il y en a. Regarde, je te parle d'un modèle, le Dinobot T6. La compagnie Kenan, c'est surprenant quand même.
Oui.
115 livres. C'est pas un monstre.
Ah, non.
Non, c'est pas un frigidaire, c'est pas dans le resto.
Parce que moi, j'ai toujours le robot dans Perdu dans l'espace
Là. Lui, il coûte à peu près 10 000 piastres. Quand tu y penses, je veux dire, comment ça va te coûter pour avoir un salarié dans une business qui...
Pour ça, t'as raison.
Puis lui, il chauffe pas pour un chiffre de 8 heures, là.
Non.
T'sais, tu peux le faire rentrer avec les déjeuners à 5 heures puis le faire finir à 11 heures le soir. Et...
Puis il va pas chialer.
Je suis pas contre l'idée.
Il va peut-être manquer de batterie, mais il va pas chialer.
C'est ça. Je veux pas être contre le fait qu'il y a des gens soient limités dans un chiffre de 8 heures. Pas ça que tu es en train de dire, mais lui, il est capable de le faire le 12 heures, t'sais, sans problème. Il y a des modèles qui sont de plus en plus nombreux. Et on peut même dénicher, ça va être ça, cherche sur AliExpress.
Non.
Ouais. Server robot, là, des affaires de même, moi, j'en ai trouvé sur AliExpress, te le dis.
Il était-tu cher?
Bon, ça dépend, là, 10, 15, 9, 20 000 piastres. Ouais. Il y a des modèles qui dépassent, même, je te dirais, les 20 000 $. Et, il y en a qui, écoute, ça dépend des fonctions. Il y en a qui sont assez plain, là, excuse l'expression, là.
Okay.
Mais, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transporter les plats sur un chariot. Ils ont comme une espèce de tablette. Ils mettent les assiettes là, ils apportent ça à la table. Puis là, ben, il y a un gars ou une fille qui passe puis qui dispatche plus rapidement sans avoir à transporter les assiettes. C'est un peu la méthode. Mais il y en a d'autres qui s'adressent aux clients, par exemple, vont parler « Bonjour, bienvenue, très heureux de vous servir. » C'est une voix de robot, là. Fait un peu que robot perdu dans l'espace. Mais il y en a qui ont un écran lumineux. Ils vont faire des faces. Ils vont faire des regards de surprise. Tu sais, tu vas demander « Je pourrais-tu avoir du ketchup? » Oh, j'ai oublié d'apporter le ketchup. Tu sais, Alors, c'est ça. Puis... Il y en a qui ont des chauffe-plats. Donc, c'est ça qui fait que la fourchette de prix est assez étendue. C'est une façon qu'on considère comme novatrice, on va dire, d'économiser de l'argent. Là. Et écoutez, là, paniquez pas là quand même. Là, on n'est pas en train de tout de suite remplacer la main-d'œuvre. Mais de pallier un manque de main-d'œuvre à certains égards, ça peut être intéressant. Il y en a qui disent que certains modèles haut de gamme là vont faire le service du début à la fin. C'est rendu là.
Wow.
Le robot arrive... Il y a un écran d'affichage avec le menu sur le bidon. Tu regardes ça, ouais. Tu sélectionnes tes plats, tu peux payer dès cet instant-là si tu es dans un service de restauration rapide. Mettons, tu commandes, okay. C'est fini là. Ouais. Il y en a que tu vas pouvoir payer après parce que peut-être que tu vas prendre un café, un dessert à la fin du repas et tout ça, puis qui va débarrasser ta place.
Faut-tu lui donner un tip?
Je sais pas. j'ai pas trouvé ça. Alors, les raisons pour lesquelles on embauche ou enfin on acquiert ce genre de robot-là, ouais. Ils vont pouvoir suggérer des accords mets-vins beaucoup plus précis que la petite serveuse, par exemple, qui connaît pas tellement ça, ouais. Entre autres choses. Ils vont pouvoir conserver une mise à jour très, très fidèle de ce qui se passe en cuisine. Donc, si, par exemple, vous commandez une omelette à la serveuse, elle sait pas nécessairement qu'il y a plus d'œufs en arrière. Elle sait une fois ils vont dire, hey, t'es un peu là, on est back order, plus d'œufs. Lui, quand tu passes les commandes, t'es capable de lui dire tout de suite, offre pas des omelettes, j'ai plus d'œufs. Tu sais, c'est le genre d'affaire-là. Afficher la liste des ingrédients qui sont allergènes, par exemple. Ils offrent un service plus rapide. Ils offrent une meilleure salubrité des ingrédients, des aliments. C'est sûr que tu n'auras pas un cheveu dans ton assiette non. À cause d'un robot, tu sais, genre.
Et j'imagine que plus ça va aller, plus ils vont évoluer. Et plus, comme tu dis, là, tu sais, on peut lui dire, non, tu donne plus d'œufs, là, parce qu'il y en a plus, là. Mais lui, il va savoir que dans le frigidaire, il en reste plus d'œufs.
C'est ça.
Parce que tout va être, tu sais, mis sur...
Exactement, dans son inventaire. Ah, oui, c'est ça. Il y a un restaurateur, entre autres, qui, lui, il racontait, il dit, ben un des avantages que moi, je vois à ça, c'est que avant ça, je recevais un groupe de 15-20 personnes pour un anniversaire et tout ça. Fallait être 3-4, tu sais, pour prendre les commandes, servir les verres d'eau, les trucs genre. Alors que là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai juste une serveuse qui passe, puis mon robot vient tout simplement l'aider, l'assister pour passer les plats. Alors, plutôt que d'avoir 3-4 personnes que je monopolise pour un groupe... Ben oui. J'en ai juste une, puis le robot qui travaille avec. Pas pire, hein? Je conclurai en vous disant que c'est pas tellement dans les cuisines encore qu'on retrouve ces robots-là, c'est plutôt dans le service. Okay. Quoique, il y a certains robots qui arrivent, tranquillement, pas trop vite, dans ce qu'on appelle derrière les fourneaux, on va dire. Je vais vous en mentionner un, il s'appelle Flippy. Flippy de Miso Robotics, okay. Qui travaille dans certaines chaînes de restauration. Aux États-Unis, entre autres, pas au Japon, là.
Non.
Au bord de la frontière. Uh-huh. Lui, ce qu'il fait, Flippy, c'est qu'il tourne des galettes de viande pour des burgers. C'est
Flippy. Il flippe des burgers.
Okay. Il prépare des frites. Il a coûté pas moins de 50 millions de dollars à développer.
Wow!
Ouais, mais c'est une belle machine. Vraiment, le regarder aller, là, c'est impressionnant de le voir virer des boulettes, là. On le voit, c'est capoté. Alors, on l'installe 5 000 US, puis après ça, on le loue entre 3 000 et 3 500 $ mensuellement. Mais lui, là, il fait les frites, il fait les burgers en même temps, puis tout ce que les filles en avant au comptoir ont à faire, c'est de ramasser les affaires pour sortir.
C'est ça.
Fait qu'il doit faire la job d'à peu près deux, trois employés en arrière, là.
Wow. Mais ça va-tu être le fun, Simon, quand on regarde une game de hockey, puis qu'on peut dire à robot d'aller nous faire des wings?
Flippy, va me flipper des burgers, pas au moins une douzaine d'ailes de poulet, mets-moi des frites, puis je vais avoir ça ici en avant de la TV dans 5 minutes.
Oui!
C'est pas pire, hein?
Ça va être le fun.
Voilà. On s'arrête pour une pause, on vient dans un instant, on va parler d'économie, entre autres choses, et nous aurons aussi, d'ici la fin de l'émission, une belle chronique musique pour vous autres.
Cette émission peut contenir des infos.
François, avec l'année 2022 qu'on a connue, oui. Évidemment qu'on pourrait avoir tendance à croire que 2023...
Ça pourrait être difficile.
Ça pourrait être une année de turbulence. Mais, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui nous fait dire qu'il y a peut-être lueur d'espoir à l'horizon.
Ah oui? Hein?
Ouais, c'est Comptable Professionnel Agréé du Canada. C'est une des organisations certainement parmi les plus connues en matière de comptabilité. Hein, organisation de comptables nationales parmi les plus importantes au monde. Je pense qu'ils ont quelque chose comme 220 000 membres. Et l'organisation a fait paraître il y a quelques semaines les résultats d'un sondage qui est à fois assez intéressant sur les perspectives économiques de 2023. Et on parle même, et là je les cite, d'un regain d'optimisme à l'égard de l'économie canadienne. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser au cours des derniers mois, l'année 2023 pourrait être peut-être moins pire qu'on l'anticipait, en tout cas au point de vue économique.
Il y a peut-être une lueur d'espoir là pour les 12 prochains mois, puis c'est drôlement encourageant d'entendre ça.
Oui, puis d'autant que c'est pas comme de demander au beau-frère ou encore à la voisine, ça va-tu bien aller économiquement en 2023? Ce sont des témoignages qui ont été recueillis au cours du mois de décembre dernier auprès de centaines de personnes à travers le pays qui occupent quand même un poste de haut niveau dans des organisations.
Ben, on pense à des chefs des finances, des chefs de direction, des chefs de l'exploitation dans des organisations qui sont de taille vraiment différente.
Donc, des gens qui connaissent l'économie.
Ils connaissent,
et pour en discuter, on va recevoir aujourd'hui avec nous M. David-Alexandre Brassard. Il est économiste en chef à CPA Canada et on va essayer de jeter un peu de lumière sur ces résultats-là. Oui. M. Brassard, bonjour.
Bonjour.
M. Brassard, ce qu'on apprend dans ce sondage-là, dont les résultats ont été dévoilés tout récemment encore par CPA Canada, c'est pas tant que l'économie s'améliore, mais qu'il y a des signes, à tout le moins, que le niveau d'optimisme dans les organisations à travers le pays semble s'améliorer. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ce qu'on doit retirer ou comprendre de cette nouvelle-là?
Oui, ben vous êtes dans votre compréhension est bonne. Ce qu'on a remarqué, comme vous l'avez dit en parlant à des dirigeants d'entreprise, c'est que le pessimisme à l'égard de l'économie, qui est quand même assez élevé pour 2023, on le dira, est moins pire qu'il était au trimestre précédent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le ralentissement économique qui devrait subvenir en 2023, pour les gens qu'on a sondés, devrait être moins pire que ce qu'ils pensaient initialement.
Qu'est-ce qui fait dire juste vous demander, qu'est-ce qui fait dire à ces gens-là que les 12 prochains mois vont être meilleurs ou moins pires?
Ben, eux ont le feedback de l'entreprise directement, mais peut-être que si je vous amène dans des données économiques là, ce qu'on remarque début 2023 là, on a créé 150 000 emplois au Canada en janvier. Donc il y a un marché de l'emploi qui s'accroche puis qui est encore relativement fort. Puis on craignait beaucoup, et avec raison, les hausses de taux d'intérêt. Mm-hmm. Ça a mis les freins sur le marché immobilier beaucoup. Mais le transfert dans les autres, dans le reste de l'économie est plus lent et l'impact semble être moins pire que ce qu'on craignait.
Est-ce que ces réponses-là, M. Brassard, qui ont été fournies par les chefs de direction, donc des chefs de finance, des gens qui trempent, qui baignent dans les chiffres, comme on peut dire, est-ce que ça suffit pour nous dire qu'effectivement, on voit poindre, comme on le croyait tantôt là en ouverture, on voit poindre une lumière au bout du tunnel, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Est-ce que dans les prochains mois, il va y avoir des choses à surveiller tout particulièrement qui pourraient nous amener à dire que, ouf, le gros de nos problèmes économiques à travers le pays, ils sont derrière nous?
Ben, je pense que pour répondre à cette question-là, là, faut évidemment parler de l'inflation, qui est comme un petit peu le nuage par-dessus notre économie, parce que aussi longtemps que l'inflation va durer, aussi longtemps on va avoir besoin des hauts taux d'intérêt qui sont eux qui mettent la pression un petit peu puis qui freinent l'économie. Donc, ce qu'on doit regarder, c'est vraiment comment l'inflation bouge. Là, ce qu'on a remarqué avec les derniers chiffres, ça semble baisser principalement à cause des prix, notamment de l'essence qui diminue. Est-ce que cette baisse-là va continuer? Il y a beaucoup d'économistes qui pensent que oui, qui pensent qu'on pourrait se ramener à un niveau d'inflation plus correspondant un petit peu plus à nos attentes vers la fin de l'année. Mais ce que je vous dirais pour le deuxième côté, qui est comme le volet économique, le consensus au niveau des économistes, c'est qu'il va y avoir une contraction pendant les trois premiers trimestres, mais qu'elle ne sera pas aussi ressentie que ce qui s'est passé pendant la pandémie, là. Donc, c'est ça. On regarde ce qui se passe avec l'inflation, puis comment l'économie correspond, mais les attentes sont, comme je vous le dis, à ce qu'il y ait un petit ralentissement.
OK. En clair, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, mais il y a quand même... Ça a l'air à vouloir s'améliorer un tout petit peu, ou en tout cas, à tout le moins, être moins pire que ce qu'on pensait.
Oui, exactement. Exactement. L'idée, c'est que le consensus, c'est récession courte et pas aussi ressentie qu'on aurait pu le croire. Peut-être que je vous amènerai sur le côté immobilier aussi. Comme vous le savez, les taux d'intérêt ont augmenté à fin janvier. C'est la Banque du Canada a mentionné que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le faisait, qu'elle mettait une pause. Donc, ce que ça veut dire, ça, pour les marchés immobiliers, par exemple, des marchés immobiliers de l'Ontario qui sont relativement chers, ben est-ce qu'on va voir une stabilisation des prix immobiliers à partir de février? C'est possible aussi. Donc, il y a ce côté-là aussi qui pourrait se stabiliser.
Ça serait quoi un taux d'inflation qui serait acceptable, selon vous, ou en tout cas que vous anticipez?
Ben la fourchette, là, cible, qui est un peu la fourchette cible de la Banque du Canada, c'est entre 1 et 3 % donc, généralement, quand on est autour de 3 % c'est jugé comme acceptable.
Okay.
Les attentes au niveau des prévisions économiques, c'est qu'on pourrait retoucher à 3 % avant la fin de 2023. C'est pas impossible. Je regardais, souvent quand on parle de l'inflation, vous le savez, on parle du chiffre année après année. Donc, ouais. On dit, par exemple, pour 2022, ça a augmenté de 6,5 % par rapport à 2021. Mais quand on regarde l'inflation, c'est intéressant de l'avoir d'un mois à l'autre. Puis, j'ai regardé l'inflation pour les 6 derniers mois, là, à partir de juin, donc après qu'on a atteint notre sommet, puis on est à un rythme à peu près de 4 % là, annuel. Donc, on voit qu'on se rapproche lentement mais sûrement vers ce 3 % %-là. Puis souvent on voit pas ça quand on regarde juste le chiffre année après année. Donc c'est important des fois de regarder en dessous du capot pour voir un petit peu ce qu'on peut en comprendre.
Quels sont les problèmes qui existent encore et sur lesquels on va devoir travailler pour que le portrait économique en 2023 s'améliore?
Ben, je peux vous parler peut-être des enjeux du Canada, okay, en général, oui, qui sont peut-être plus des enjeux moyen long terme. Qui vont peser sur l'économie. Vous le savez, évidemment, on a le vieillissement démographique qu'on essaie de contrer fortement avec l'immigration. Vu qu'on a des bonnes cibles d'immigration qui sont très ambitieuses, ben probablement que ça va diminuer l'impact qu'a le vieillissement de la population sur les départs à la retraite. Là, ce qu'on voit, là, je peux pas encore dire que c'est une tendance, mais dans les chiffres de janvier, on a vu des hausses d'emplois dans les 55 à 64. Là. Donc, je soupçonne que la haute inflation va peut-être affecter des décisions à la retraite. Donc, ça pourrait peser dans le portrait économique. Puis, évidemment, comme je vous le disais, la question de l'inflation qui est grande. Donc, à quel point est-ce que l'inflation va durer? Puis ça dépend, évidemment, de à quel point est-ce que les chaînes d'approvisionnement en général se sont beaucoup réparées par rapport à avant là. Les enjeux qu'on avait de transport autant dans le coût que dans la durée sont beaucoup moins présents. Donc ça c'est le côté positif. Ce qu'on doit regarder, c'est les services qui ont augmenté beaucoup en prix de ce temps-ci. Donc c'est de voir à quel point l'inflation sur les services va se contrôler ou se diminuer dans les prochains mois.
C'est intéressant, M. Brassard. Disons qu'on n'est pas des diseuses de bonne aventure. On n'est pas en train de lire dans l'avenir. On n'est pas en train de tirer aux cartes. Mais à tout le moins, si on jette un regard, un coup d'œil dans le tableau de bord, c'est que les voyants, à tout le moins, semblent être un petit peu moins rouges, brillants là, qu'ils étaient. Je dis pas qu'on voit apparaître du vert nécessairement, mais en tout cas, il y a des signes à l'horizon qui pointent vers quelque chose d'une amélioration. Vous nous avez dit d'ici 2023, la fin de 2023, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait avoir retrouvé une meilleure santé économique, on va dire, au pays. C'est ça qu'il faut comprendre, grosso modo.
Oui, puis c'est ça que vous parliez de notre sondage au début qui reflète ça. Lorsqu'on regarde d'autres indicateurs, là, comme comment les consommateurs se sentent, c'est moins pire qu'il y a quelques mois. Donc, on voit que, comme vous le dites, il y a un embelli, puis on pourrait revenir à une situation qui moins, je dirais, moins inquiétante, peut-être. Fin 2023, c'est comme ça que je la qualifierais.
Non, c'est intéressant comme, oui, conclusion. Monsieur David Alexandre Brassard, il est économiste en chef à CPA Canada. On parlait justement de cette embellie ou de cette amélioration probable de la situation économique ou de la conjoncture économique, on va dire, au pays pour les 12 prochains mois. Monsieur Brassard, merci.
Merci beaucoup.
Peut contenir des infos.
Merci à Monsieur David Alexandre Brassard qu'on recevait en entrevue, économiste en chef chez Comptable Professionnel Agréé du Canada.
C'était très intéressant.
Oui, absolument. Alors, on a un meilleur portrait un peu de la situation des 12 prochains mois.
Oui.
Parlant d'économie, parlons d'économie d'énergie.
Ça, c'est une bonne idée.
Ça, c'est une bonne idée, hein?
Oui, et on y pense de plus en plus.
Ben, écoute, avec l'inflation et tout ça, on l'a dit.
On voit la facture d'électricité.
Absolument.
Oui.
10 mesures concrètes, des informations qui viennent de Ressources naturelles Canada.
Okay.
Qui nous prodiguent comme ça des façons d'économiser l'énergie. Tu vas nous en donner quelques-uns, j'en ai aussi. D'abord, utiliser le transport actif. C'est intéressant, ça. La marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage.
Oui.
Même une seule fois par semaine, ça peut aider.
Effectivement. Appliquer des techniques de conduite éco-énergétiques.
Oh!
En conduisant avec précaution. Éviter d'accélérer ou de freiner soudainement, ce qu'on fait souvent, pour consommer efficacement notre carburant.
Planifier les déplacements, puis en réduisant aussi l'attente inutile. Hein, quand on planifie à l'avance, quand on part au bon moment, ben on n'a pas besoin justement de rouler trop rapidement. Ça, c'est une autre façon de faire aussi.
Utiliser des barres d'alimentation intelligentes. Ça coupe l'alimentation lorsque les appareils ne sont pas utilisés. Et en plus, ça protège vos appareils.
Oh, ça, c'est fantastique. Oui. Les ampoules Adèle, as-tu ça chez vous, toi?
Oui.
Les diodes électroluminescentes.
Oui. Hein? Je trouve que ça éclaire plus.
Oui, c'est vrai. Puis, il y a maintenant des belles technologies qui existent qui permettent d'avoir soit des teintes très, très claires. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus chaleureuses.
Oui, effectivement.
Comment bien fait comme technologie.
Oui, puis ça dure en plus.
En plus?
Oui, c'est ça. C'est pas...
Sûr que sur le coup, des fois, ça coûte un peu plus cher que l'ampoule incandescente qu'on avait dans le temps, là, dans l'ancien temps. Mais c'est un bel investissement.
Qui sert encore, d'ailleurs.
Oui.
Remplacez vos thermostats actuels par des thermostats certifiés Énergie Star.
Quand personne est à la maison ou encore quand personne est au bureau, on baisse le chauffage ou on baisse la climatisation avec des thermostats programmables,
oui.
Comme ce que tu nous as recommandé tantôt, parce que, hey, c'est beau de les installer, mais encore faut-il s'en servir.
Effectivement. Prenez soin de vos systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Faut s'assurer que les conduits soient propres.
Ben parce que
c'est dégagé,
ça fonctionne mieux.
Effectivement.
Il perd pas de chaleur.
C'est ça.
Autre chose. L'étanchéisation qu'on dit, étanchéiser, disent vos votre maison, des bonnes, ce qu'on met autour des fenêtres là,
oui.
Tu sais, pour empêcher les pertes de chaleur.
De chaleur,
c'est une autre façon de faire aussi.
Ouais, puis les plugs électriques là.
Oui, aussi.
Oui, on met
des affaires
pour
des
foams là dedans.
Exactement.
Oui. Et remplacer vos vieux appareils. Et vos appareils électroniques désuets, grands et petits, par des modèles certifiés Énergie Star. Vous allez voir, vous allez économiser de l'énergie.
Alors, on vous souhaite de bonnes économies d'énergie en espérant réduire votre facture d'électricité et de gaz naturel, peut-être, sait-on jamais.
Et d'essence.
Et d'essence, oui, bien sûr, en levant le pied sur l'accélérateur. On vient dans un instant pour une autre portion de l'émission peut contenir des infos. Restez avec nous.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Simon, l'hiver, on écoute de la musique.
Oh, moi, j'écoute la musique à n'importe quand dans l'année. Là.
Mais moi aussi, j'écoute de la musique n'importe quand dans l'année. Mais je te dirais, je suis plus attentif l'hiver que l'été. Parce que l'été, je suis toujours en train de faire quelque chose.
Ah, c'est vrai que quand
en écoutant la musique.
C'est sûr que quand t'es au chalet, t'es en train de prendre une petite frette. Avec les gens de la parenté.
Oh, il y a un straight, là.
Oh, oui, exactement. Tu tends peut-être un peu moins l'oreille vers la musique.
C'est ça, exactement.
Mais l'hiver invite.
Oui.
Les circonstances font qu'on est davantage attentif, peut-être.
Oui, et je te dirais aussi que l'été, la musique est plus entraînante que l'hiver.
OK. On va voir si ça se vérifie avec celui qu'on est avec nous autres aujourd'hui.
Oui, Monsieur Marc Lalonde. Qui est chroniqueur depuis, ma foi, des lunes. Bonjour, Marc.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi?
Oui, ça va très bien. Écoute, moi, j'écoute la musique constamment aussi, de tous les styles, de toutes les... Ben, pas toutes les langues, mais quand même. Mais c'est vrai que ce que tu dis, François, l'été, la musique est plus légère, elle est plus entraînante et c'est plus léger. Tandis que l'hiver, l'automne, l'hiver, le peut-être le printemps aussi, on a tendance à nous offrir de la musique un peu plus songée, un peu plus profonde au niveau de l'âme, des émotions et tout ça. Donc, il y a une différence entre l'été et l'hiver, effectivement.
Marc, la raison pour laquelle on t'invite, c'est que tu as une chronique dans Franco-Presse, dans le site francopresse.ca, et il y en a une particulièrement qui a piqué l'attention de mon collègue François, puis qui a attiré mon attention là-dessus. Ça s'appelle « Musique », donc des albums pour embrasser l'hiver. Ben, c'est bien dit.
Oui.
Oui, c'est bien dit. justement, c'est des albums qui, comme je disais tantôt, là, qui nous fait... un peu plus songé, qui vient nous chercher plus profondément au niveau de nos émotions.
Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui pour cette première participation à l'émission « Peut contenir des infos », Marc?
Ben, merci de l'invitation, premièrement. Puis je vous présente le sixième album déjà de Édouard Landry, qui fait partie de la génération de Steph Paquette, aussi de toute cette génération-là des années 90, qui a développé. Édouard Landry est rendu à son 6e album et d'album en album, il nous conserve les petites trouvailles qu'on redécouvre à chaque fois. Il vient nous chercher avec des émotions, avec des textes solides, des musiques solides. Et Forteresse, ben ça faisait une secousse quand même, mais c'est son 6e album et c'est toujours aussi bon. Il n'y a pas d'usure qui se fait entre l'auditeur et Édouard Landry. Son dernier album, Forteresse, là, il y a des pièces comme Quarantaine. Durement qu'on entend Quarantaine, on est accroché à ce disque-là avec l'énergie qu'il nous propose, avec les émotions qu'il nous propose. C'est fort intéressant. Il y a des super bonnes pièces qu'on pourra écouter comme Rappel, comme Fossé ou encore Minuterie, que sûrement tout le monde a vu sur YouTube. Un superbe vidéo.
C'est très entraînant.
C'est entraînant.
C'est vraiment bon comme tune.
Tu me disais tantôt que c'est pour l'été, mais je veux dire, c'est 12 mois par année, là, chanson comme ça.
Oui, c'est vraiment intéressant. Mais sur son 6e album, il nous amène un peu ailleurs avec la pièce type Forteresse, entre autres. C'est une trame de piano assez intéressante, assez puissante, mais vraiment un de ses plus beaux textes depuis ses 6 albums. C'est vraiment génial. Il y a de très bonnes pièces là-dessus. L'autre pièce maîtresse, Vers la fin des terres, là, qui est vraiment très intéressant. Mais je veux terminer par la pièce magique de l'album, selon moi. Et si on écoute les premiers accords de cette pièce instrumentale-là, eh bien, on se rappelle une époque, malheureusement, défunte, une époque où on n'écoute plus ces albums, ces pièces instrumentales. Une pièce oubliette qu'on va entendre dans quelques instants, ça nous rappelle l'époque de Cano et ses grandes pièces comme Spirit of the North, très intéressant, où la musique parle autant, même s'il n'y a pas de parole. Et sur cette pièce-là, vous allez reconnaître une des plus belles voix du Canada, Madame Kim Richardson, et ça nous rappelle les époques de Cano, harmonium et tout ça. On en écoute un petit bout.
Je dois dire, Marc, que moi, j'écoute encore du Cano.
Oui.
Ben, c'est ma génération, là, mais...
Oui, ben moi aussi, d'ailleurs. Mais je trouve que cette pièce-là est vraiment puissante.
Oui. Ouais.
Et puis, les premiers accords, on rentre que c'est ça. Et puis, on se laisse emporter vers cette belle mélodie qui est la pièce oubliette. Je pense qu'il vient de lancer un clip aussi sur YouTube de cette pièce-là. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine, c'est vraiment génial.
Très atmosphérique, moi j'aime beaucoup.
La madame, elle a une méchante voix.
Ah oui, Kim Richardson, je veux dire.
Ouf!
Elle a chanté avec tout le monde, presque.
Ah ouais, pratiquement, qui ne connaît pas Kim Richardson. Là, Marc, tu nous entraînes vers un autre artiste à découvrir ou à redécouvrir, je ne sais pas.
Ben, c'est un artiste à découvrir, montréalais, mais d'origine de la Saskatchewan. Si je vous dis campagne, on pense à quoi?
La famille Campagne. Oui.
Ben, le fils de Paul, Alexis Campagne, qui demeure à Montréal, tous les moyens sont bons pour faire découvrir ta musique. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à tous les 2 semaines, durant l'automne, il a fait entendre une chanson anglophone et sa traduction en français, aussi sur YouTube. Donc, les gens pouvaient découvrir ça, hein? C'est intéressant comme musique. Et il a lancé tout récemment ce disque-là, qui s'appelle For the Giving, Sans rien donner, qui est un disque merveilleux. Il nous amène ailleurs, un pop, un folk plus pop, plus intéressant, plus moderne. Plus moderne que Art Rouge, qui date quand même des années 80. Donc, Alexis Campagne, vraiment, c'est intéressant ce qu'il nous propose comme musique. Il a une très belle voix. C'est un multi-instrumentiste génial. On peut peut-être écouter la pièce titre là, en français, là, sans rien donner. Ça va vous donner un son, une couleur de la musique d'Alexis Campagne.
Tu as vidé mon amour sans même de
On voit vraiment que c'est pas du art rouge, ça, là.
Non, c'est moi, c'est ce que j'appelle de la pop consistante. C'est de la pop, mais avec des mélodies accrocheuses, des mélodies solides, des textes intéressants, une voix qui est vraiment accrocheuse. On s'accroche à sa voix. Moi, je trouve qu'il y a une très, très belle voix. Il y a de très, très bonnes pièces là-dessus. Quand je ferme les yeux, il y a aussi Rome, La peur s'envolera. Pour Alexis, je pense que il a vraiment rejoint un certain public avec sa pièce pop jazz un peu. Je reviendrai vers toi qu'on va entendre dans quelques instants. Juste vous dire que c'est langoureux, mais très savoureux. Donc voici Alexis Campagne et je reviendrai vers toi.
Sur la route, tout ce qui me tient à cœur, dans mon rétroviseur, s'éloigne à 100 000 à l'heure. Mais je sais que tôt ou tard, je reviendrai. Je reviendrai vers toi.
Je me verrais très bien, en écoutant cette chanson-là, conduire.
Ah, c'est vrai.
Oui.
Hein?
Oui, c'est, il me semble que c'est une toune de route.
Oui, effectivement, c'est une toune de route. C'est une toune, une chanson très intéressante. Les mélodies, les arrangements sont vraiment bien faits, bien solides. Donc, c'est un nom à retenir. Monsieur Alexis Campagne, comme je vous dis, qui demeure à Montréal, mais il est l'origine de sa famille, c'est bien sûr les campagnes de la Saskatchewan. Donc, c'est vraiment un album à se procurer. C'est vraiment bien fait. Moi, j'adore ça. Et donc, je trouve ça merveilleux.
Ouais, puis je trouve ça intéressant aussi qu'il s'est éloigné un peu du son d'Art Rouge.
Oui, oui. Oui, puis c'est pas évident de faire sa marque, mais je pense qu'il a les bons outils pour faire en sorte qu'on dise pas « Ah, ben c'est Campagne, c'est la gang de Art Rouge. » Non, c'est, il nous amène ailleurs, il nous amène vraiment dans un univers là, particulier, très paisible aussi, donc je trouve ça génial. C'est le genre d'album qui pourrait s'écouter facilement. Sur la route, comme tu dis, là.
Marc Lalonde, merci beaucoup. Oui. Marc, que les gens peuvent entendre, entre autres, à Penetanguishen et Barrie, là, dans la région de la Baie Georgienne.
Et un peu partout au Canada avec Canrock.
Oui, exactement.
Avec son émission Canada.
Son émission. Et que vous pourrez lire également à travers ses chroniques qu'il signe dans le site Franco-Presse, donc francopresse.ca. Si on veut aller découvrir d'autres chansons, d'autres musiques, eh ben, allez le lire sur francopresse.ca.
C'est super intéressant. Merci. Merci, Marc.
Merci beaucoup, Marc.
Oui, ben merci bien. Puis juste d'inviter les gens là, au mois de mars là, d'aller voir. C'est le mois de le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui. Eh bien, j'ai deux femmes extraordinaires à vous proposer au mois de mars dans Franco-Presse.
Oh, OK, cool.
Super.
Alors, oui, on va aller voir ça.
L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Marc Lalonde.
Merci.
Dernière pause avant le dernier bloc de l'émission peut contenir des infos. Vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire par courrier électronique à pcdi@radiorfa.com pour vos commentaires ou encore vos suggestions pour l'émission. On revient dans un instant.
Cette émission peut contenir des infos.
On est allé faire un tour du côté du monde musical tantôt avec...
Drôlement intéressant.
Drôlement intéressant avec Marc Lalonde.
Oui.
On a découvert des artistes dont on va courir. On court plus à Star se procurer des disques, on s'en va sur Internet.
On se dit, on va sur Internet.
Puis... courir chez votre magasin de disques
au coin
de
la rue. On télécharge le MP3. Là.
Il y en a peut-être encore là pour les gens qui ont un magasin de disques, mais ils sont de moins en moins nombreux, il faut bien se le dire. De quoi tu vas nous parler tout tantôt?
Oh, je vais tester ta patience.
Tu vas tester ma patience. Tu sais que je suis un gars patient pour
ça. Oui, c'est ça.
Je vous pose la grande question aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous savez envoyer un courrier électronique?
Bonjour, cordialement, send.
Ben, ouais, OK, c'est que la technique de base, là, tu sais, tu vas me dire, mais est-ce qu'on le fait bien?
Tu me mets des doutes dans la tête.
Ben, quand même, hein, ça a quand même plus que 50 ans, le courrier électronique.
Oui.
1971. Tu sais, je veux dire, OK, l'Internet dans les maisons, c'est arrivé dans les années 90, là.
Mais avant ça, on s'envoyait des courriels.
C'était bien avant ça que les organisations, par exemple, de l'État, là, les ministères et tout ça, eux autres s'envoyaient des courriers électroniques. Je vous donne aujourd'hui je vous fais la démonstration que vous n'utilisez peut-être pas le courrier électronique de la bonne façon.
Oh, ouais. OK.
L'une des erreurs les plus courantes, c'est de se créer une adresse de courrier, de courrier électronique qui a pas l'air sérieuse. Comprends-tu ce que je veux dire? Vous écrivez, par exemple, à votre chum avec l'adresse grosjambon234@hotmail.com, c'est pas pire.
Mais oui.
C'est drôle.
Oui.
Quand vous écrivez à un employeur pour solliciter une job avec grosjambon234@hotmail.com,
ça pose pas.
C'est moins winner.
Oui, c'est ça.
OK? Fait qu'au pis-aller, ayez donc deux adresses de courrier électronique, ça se peut.
Ben oui.
Ça se fait, rien qui vous empêche.
Oui.
Grosjambon234 pour vos niaiseries sur Internet.
C'est ça.
Puis quelque chose d'un petit peu plus formel, mettons, pour écrire au gouvernement quand vous voulez avoir un remboursement d'impôts ou parler de, tu sais, d'affaires de même, ou encore même aller chercher une job. Parce que grosjambon234 qui rentre dans ma boîte de courriel, je trouve ça un petit peu drôle.
Puis je suis pas sûr que je vais le lire non plus.
Je sais pas. Il y a besoin d'être bon et d'être convaincant. Envoyer des courriers professionnels, des courriers électroniques professionnels la fin de semaine, ça se fait pas ça.
Non.
Ça se fait pas. Si, à la rigueur, si la personne à qui vous destinez votre courriel, vous savez qu'elle travaille la fin de semaine, puis vous aussi travaillez la fin de semaine.
Ça, c'est une autre histoire.
Ça va, là, tu sais. Mais si vous faites du 8 à 4 du lundi au vendredi, quand le monde traverse la porte du bureau le vendredi après-midi, on a le droit à l'ubrique.
Oui.
Alors, au pis-aller, maintenant, il y a une belle fonction qui existe dans Gmail et les autres. C'est de faire un délai sur le courrier électronique.
Exact.
Tu dis, garde, envoie-nous ça lundi matin, 8h. Puis là, ben, il reste dans tes comme brouillons ou entre guillemets, ou dans les affaires à envoyer. Puis, magie, tu l'oublies pas lundi matin, il va partir à 8h, la personne va le recevoir pareil.
Puis c'est le fun parce que si tu as l'inspiration du courriel la fin de semaine, tu l'écris.
Ça peut.
Puis après ça, tu l'envoies, mais il s'envoie juste le lundi.
C'est ça. Ne pas inscrire le titre à son message. Ça, c'est une autre erreur qu'on fait. C'est parce que, tu sais, des fois, on reçoit des courriers électroniques puis il n'y a pas de sujet.
Oui.
Moi, je vais vous dire, là, quand je reçois un courrier électronique, il n'y a pas de sujet, je passe un petit peu moins vite dessus, mettons.
Ouais.
À moins que ce soit mon père, là, ou quelqu'un de ben important. Mais, tu sais, si tu m'envoies une correspondance, tu me dis pas c'est quoi que tu veux me dire.
Tu
sais, vous n'auriez pas des lettres, là. Je veux dire, on n'écrivait pas dans l'enveloppe. Puis même encore là, tu sais, on envoyait des cartes à un moment donné à du monde. On voyait arriver une enveloppe rouge avec un thème de Noël dans le coin.
Oui.
Ben, on savait que c'était pas un bill d'hydro.
Oui,
gros chance soit une carte de Noël.
Oui, c'est ça.
Fait que c'était un peu la façon dont on savait. Puis même le gouvernement, tu sais, nous envoyait des affaires. Puis dans le coin de l'enveloppe, il avait l'adresse de la business. Ben, quand vous envoyez des courriers électroniques, mettez un titre à vos messages. Je t'écris, tu sais, mettons, c'est comme demande d'aide déménagement, mettons. Là, la personne elle sait que il a besoin de tes bras, tu sais, genre.
Elle va lire ton courriel.
L'autre erreur qu'on fait, c'est de dévoiler à tout le monde les adresses d'autres destinataires. Quand vous écrivez
les fameux CC.
Les copies carbone ou copies conformes. Lâchez ça, s'il vous plaît.
Oui.
Hein?
Oui.
Si ça se fait, si vous l'envoyez à tout un groupe, ça se fait. Mais il y a une belle technologie dans le courrier électronique qui s'appelle le CCI.
Exactement.
Le
blind.
Oui, le blind, le BCC, le blind carbon copy qui appelle, ou le copy carbone invisible qui appelle, qui va faire qu'il y a personne qui va avoir les adresses de courrier électronique à tout le monde.
C'est ça. Ils vont toutes l'avoir, mais il y a personne qui va savoir qui l'a eu.
Bon, premièrement, ça permet de pas divulguer l'adresse de courrier électronique de personnes qui voudraient pas que leur adresse de courrier électronique soit divulguée. Moi, ça me tente pas nécessairement que une personne de ma famille à qui ça me tente pas jamais d'écrire voit mon adresse de courrier électronique, puis là, tout à coup, ça faisait longtemps que je voulais avoir le courriel à Simon, elle est là. Puis en même temps, ça
quand tu
que
fais
ça...
du quand tu réponds.
Le reply all.
Oh.
Quel
ça, c'est pénible.
Excusez, quel plaid d'Égypte.
Ah oui, ça, c'est pénible.
Moi, c'est quand le monde fait, tu sais, il t'envoie un courrier électronique à tout le monde pour montrer les photos du bébé, des affaires de même. Puis là, ben, ça se met à répondre à tout le monde. Ouais. Tu sais, qui autorier qu'un peu? On a tellement eu le fun l'été passé quand on l'a vu. Il était tout petit comme ça, il a rendu grand comme ça. Lâchez ça, là, ouais, s'il vous plaît. Ouais, répondez juste à la personne.
C'est ça.
Fait que, mais il y a du monde qui fait des, souvent, ils vont faire des reply all sans, peut-être s'en rendre compte. Ils font pas ça méchamment, mais.
Ben non.
Colin, hein? S'il vous plaît, lâchez ça. La cinquième erreur qu'on fait souvent, c'est, on l'a dit, là, c'est répondre à tout le monde sans nécessité parce que ça vient avec le dévoilement, justement, des adresses. Les formules abrégées, sixième erreur. Les LOL, les MDR.
Les cas, là?
Les cas. Ah, oh, les cas, le K.
Ouais, le K.
Que vous faisiez ça dans un SMS. Bon, passe encore. Ouais. On prend, tu sais, je veux dire, on est limité, il y a quoi, 120 quelques caractères, pour que le SMS passe et tout ça. Mais quand vous êtes rendu à écrire à quelqu'un, je passe en FDS, on va LOL, c'est un RDV, DIM à 7 PM, là, puis t'es obligé, tu sais, t'es obligé de sortir quasiment le dictionnaire des abréviations pour comprendre. Vous avez de la place d'un courriel, vous pouvez l'écrire, je vais passer chez vous en fin de semaine, je te donne rendez-vous, je vais aller chez vous, puis on va avoir du fun.
On va bien rire.
On va rire, tu sais. Ah ouais. Puis encore là, ça peut dépendre de votre destinataire. Si vous écrivez, si vous avez 14 ans, vous écrivez à votre chum de 14 ou 15 ans, lui, il peut comprendre
ça,
le vocabulaire.
C'est une autre histoire,
si vous écrivez à ma tante pour lui remercier de vous avoir envoyé un 100$ avec des LOL, puis des R, puis c'était le fun, OK, puis je vois, tiens, non, non, s'il vous plaît. Ne pas se relire et ne pas se vérifier avant d'envoyer son message. Ça, c'est la septième erreur qu'on commet.
Oui.
On s'est, par exemple, je sais pas moi, on s'est trompé dans l'heure d'un rendez-vous. Mm-hmm. On n'a pas attaché la pièce jointe.
C'est ça.
On dit, je t'envoie telle affaire, on ne l'a pas jointe.
On paye sur scène vite.
Exactement.
Un peu trop vite.
Tu sais, c'est pas, vous êtes pas dans une course, là.
Non.
Quand vous envoyez un courrier électronique, à moins que ce soit vraiment, vraiment pressant, mais même encore là, envoyez un SMS à rigueur, si vous voulez que ça soit.
Ah, ben oui, c'est ça. Oui.
Si vous envoyez un courrier électronique, c'est parce qu'à quelque part, vous voulez donner des bons détails et tout ça. Prenez le temps, relisez-vous. C'est la septième erreur. Donc, vous l'avez dit. Vous pensez que vous envoyez depuis tout ce temps-là des courriers électroniques sur le sens du monde, puis Simon est en train de vous dire que elle a peut-être fait quelques erreurs en parcours.
Et vous voyez que Simon a pas énormément de patience des fois.
Moi, je suis pas. Tu sais, ils ont passé par les portes à un moment donné, puis ils ont dit patience. Qui veut de la patience?
J'en veux pas.
Moi, je suis allé me cacher dans la cave, comprends-tu?
C'est ça. Oui, moi tout. Je l'ai évité, celle-là.
C'est un gars très...
Mais en vieillissant, je m'aperçois, et je pensais le contraire. Je pensais qu'en vieillissant, j'aurais plus de patience.
Ouais.
Non, en vieillissant, j'ai moins de patience.
Je travaille beaucoup, là, soit dit en passant, parce que j'ai à la maison deux aiguisoirs à patience.
Oui, c'est ça.
Ça s'appelle deux kids, deux gars, tu sais. Ah,
ouais.
Puis les autres, ils aiguisent ma patience pas mal.
Ça m'amène à te parler d'un gars qui en a pas énormément de patience.
OK.
OK, c'est un joueur de tennis. Il s'appelle Alexander Bublik. Il était visiblement pas très content de se retrouver avec 6 balles de match contre lui au premier tour du tournoi de Montpellier. Et en plus, il était le champion en titre. Si bien que le 50e joueur mondial a décidé de faire payer sa raquette. Mais pas juste une raquette. Au changement de côté, OK, il a brisé sa première raquette.
Qu'il en a brisé une.
Boum, 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 par terre.
Il y en a quelques-unes de réserve, là.
Oui, c'est ça. Il est allé dans son sac, il a sorti ses deux autres raquettes, et il les a pétées aussi. Ça lui a pris 25 secondes, sûrement un record mondial. Et je suis certain que John McEnroe...
C'est ce que j'allais dire?
Oui, et était probablement très jaloux de le voir aller.
Voir aller John McEnroe aussi, c'était impressionnant.
Je peux dire que quand il a plié bagage à la fin du match, disons que son sac était un peu moins pesant qu'il était quand il est rentré sur le cours.
Il est pas pire. Oui. Y a-tu une pénalité pour ça? Y a-tu quelque chose? Sais-tu,
il dit? Ben, souvent, quand il se fâche un peu trop, là, il va y avoir une amende, là. Mais, okay. Il n'y en avait pas eu encore, là.
OK. Puis lui, c'est le 50e?
Ouais, 50e joueur mondial. Tu sais, quand même, t'as un gars qui a un petit peu d'expérience, là, puis bon.
Il nous reste encore un petit deux minutes. Je vais.
Des choses qui... Ouais, mais c'est parce que je veux te parler aussi de quelqu'un qui en a trop de patience.
Ah, OK, l'opposé, vas-y.
Oui, l'opposé. En fait, c'est pas une personne, c'est un oiseau.
Ah.
OK. Après une intervention, il y a un exterminateur qui a découvert qu'un oiseau, OK, lui s'en allait dans la maison pour capturer cet oiseau-là. Mais cet oiseau-là avait caché près de 700 livres de gland dans les murs de la maison.
700 livres.
700 livres. Une minute, là.
Aïe, aïe.
le bonhomme, il a comme percé un trou dans le mur. Et puis là, s'est mis à sortir les glands. Mais là, ça arrêtait pas, puis ça arrêtait pas, puis ça arrêtait pas, puis ça arrêtait pas. Finalement, lui, il pensait, il dit, ben, il doit avoir des glands, tu sais, comme juste une partie du mur. Non, il n'avait jusqu'au grenier.
Ah, il a foulé ça à grand-mère.
Il en avait jusqu'au grenier. Quand ils ont ouvert les murs pour laisser sortir les 700 livres de glands, c'est l'équivalent de 8 gros sacs de poubelle qu'il y avait. Ça a détruit tout l'intérieur des murs.
Ben, c'est clair.
Comme l'oiseau a tout défait. Là.
700 livres de glands.
Mais imagine, c'est ça, 700 livres de glands. Tu sais, des...
Ah, c'est pas gros, là.
Non, c'est pas gros, là.
Il pourrait rendre jaloux.
Il y en avait de la patience, le petit oiseau, là.
Il pourrait rendre jaloux ben des écureuils, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça.
J'ai déjà vu des écureuils charrier des glands ou encore un petit Suisse qui vient pas très loin de chez nous, là. Ouais, il en met un d'un bord, mais un de l'autre, ouais. Là. 700 livres, ouais. C'est une couple de semaines d'ouvrage, ça, là, mon ami.
C'est bien d'ouvrage.
Une couple de semaines d'ouvrage. On arrive à la fin de l'émission. On a eu encore bien du plaisir pour l'émission
comme
de
toujours.
Contenir des infos. On vous rappelle en terminant, peut-être que ça vous tente de nous écrire.
Ah oui?
Ben, je sais pas.
Ah ben,
peut-être.
Tu veux que je t'écrive? Ben, je vais t'écrire un courriel avec ce que tu nous as parlé, là.
Ouais, avec un sujet.
Ouais, je vais t'envoyer ça avec des quais, puis
non, mais des verbes, des compléments, tout ça. Puis,
ah ouais?
Ouais.
Ah ben là, ça va être long, okay. Là. PCDI@radiorfa.com.
OK, alors on attend vos courriers électroniques convenablement remplis avec un sujet, avec un destinataire, puis ça vous tente.
J'ai comme l'impression que quelqu'un va nous en envoyer un.
Ça vous tente d'envoyer une copie au reste de la famille. Ben, ayez au moins l'intelligence de pas les mettre en CC, mais de les mettre en CCI. Pas que je vois leur adresse de courrier électronique, si ça vous tente des fois de me planter.
Ben oui.
Alors, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut, bonne semaine.
Bye.